À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, sera question de Dostoïevski. Dostoïevski, c'est tout un programme. Ce grand auteur, ce grand écrivain russe qui est mort il y a plus d'un siècle, en 1881, il n'est pas mort très âgé, a eu une vie qui est un véritable roman. Oui, c'est absolument étonnant, cette vie. Et de cette vie remplie de drames et de difficultés, de problèmes et de joie aussi, est sorti quelqu'un finalement qui était à la recherche du sens de sa vie en le trouvant surtout dans le Christ. Il est, comme tellement d'entre nous, oh, je parle pas des bonnes religieuses dans leur couvent, là, mais je parle de nous, les, comme on dit, les pauvres laïcs, une vie étrange comme les nôtres. C'est un roman d'aventure. Son père, qui est à moitié fou, est assassiné par ses paysans alors qu'il est encore jeune, 2 ans après la mort de sa mère, d'ailleurs. Et pour lui, donc, après une adolescence bien difficile, puis vraiment une jeunesse affreuse, là, il s'engage à prendre des positions plus ou moins politiques. Alors, il est arrêté par la police, il est condamné à mort. On lui met même ce sac blanc sur la tête pour l'exécution, mais c'est transformé en 4 ans de bagne. Il n'oubliera jamais. Dostoïevski va vivre désormais comme un fusillé, avec sursis. Son visage va garder, on peut dire, les traces de cette cagoule blanche. Puis il y a le bagne, 4 ans, où il lit la Bible, en français, l'Évangile aussi. Puis il y a les confessions de la maison des morts, les forçats au dos rayé de sang, hein. Il y a surtout l'Évangile, puis il y a des premières crises sérieuses d'épilepsie. Il ressort donc de ce bagne, de cette espèce de camp de concentration, à 33 ans, pour épouser une veuve qui a un enfant, enfin une pauvre femme, plus âgée que lui. Ça ne le rend pas heureux du tout. Il doit vivre séparé d'elle pendant 7 ans. Finalement, elle meurt. Il se mariera à nouveau. C'est un éternel mendiant que Dostoïevski. C'est un joueur aussi. Il est pris par le jeu. Vous connaissez des gens qui sont pris par le jeu? Mon fils a déjà été pris par ça. C'était triste. Une maladie effrayante. C'est un refoulé, Dostoïevski. En proie peut-être à des crises de sadisme et de masochisme, mais on se demande s'il serait pas, été coupable du viol d'une fillette même. Imaginez, c'est triste. Ce drame se joue avec une toile de fond qui est cette immense Russie tsariste, mystique, mais pourrissante. C'est la Russie qui sort du Moyen-Âge à cette époque, au 19e siècle. Alors, une Russie qui a été bien croyante sous bien des aspects. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la vie de Pierre le Grand, c'est absolument étrange, cet homme abominable et qui aimait les grandes cérémonies religieuses. Et la Russie fait irruption, si on peut dire, dans le monde de l'industrie, du machinisme. C'est une époque aussi où il y a des émeutes, il y a la police secrète. Oui, déjà, on n'est pas dans le régime depuis 1917 jusqu'à tout récemment. Non, non, c'est le 19e siècle, c'est sous les tsars. Oui, il y a déjà cette police secrète, des répressions, des concussions. Puis en Allemagne, où il fuit, il est obligé de s'enfuir pour échapper à la prison pour des dettes de jeu, là. Alors, le malheureux Dostoïevski traîne sa détresse devant des tables de baccarat, justement, puis il joue ses derniers roubles. Il est ruiné. Il est secoué par ses crises nerveuses. Mais il va atteindre enfin la gloire. Je vous raconterai tout ça. Il meurt à 59 ans, je vous avais dit, c'est pas très vieux. Son enterrement, absolument extraordinaire, c'est un triomphe. Mais plus tard, va survenir la révolution communiste en 1917 et ses œuvres si extraordinaires, j'en ai en quantité, je retraçais ça dans ma bibliothèque, j'ai lu en partie, cela je ne les lirai jamais toutes parce que c'est 5 gros volumes de la Pléiade, plus autre chose alors. Mais je me suis beaucoup inspiré des introductions qui sont admirablement bien faites par Pierre Pascal. Alors, ses œuvres, donc, dans la Russie soviétique, sont poursuivies et sont interdites. Elles sont interdites au point que, à Kiev, la capitale de l'Ukraine, qui faisait partie de l'URSS depuis 1922, on a dit en 1935 à des Français qu'ils étaient complètement étonnés de voir qu'ils lisaient encore Dostoïevski. Pour eux, c'était condamnable et triste et stupide, Dostoïevski, qui défend justement la foi contre le matérialisme dialectique, le matérialisme des marxistes. Peut-être que les Ukrainiens ont changé d'idée depuis ce temps-là, je l'espère. En tout cas, son œuvre à Dostoïevski, c'est un monde vraiment touffu. Et quand on lit ça, c'est étrange. Il y a des personnages, justement étranges, qui grimacent, qui nous donnent l'impression, peut-être jusqu'à un certain point, d'être des espèces de pantins ou des marionnettes qui sont dévorés de tics, de folie, de désespoir, de haine, mais qui sont capables parfois de bien belles et mystérieuses prières. Ils sont capables aussi de larmes, des larmes saintes. C'est pire que des tragédies, ces romans-là, finalement. Il y a des hécatombes de suicidés et d'assassinés. Il y a des démons, des épileptiques, des ivrognes, des picassiettes. Il y a des vieux généraux gâteux, des jeunes filles qui ont des allures équivoques. On y voit aussi des tuberculeux, des prostituées qui se heurtent et qui dialoguent à la lumière des nuits blanches de Pétersbourg, dans des ruelles provinciales aussi, ou bien dans un commissariat de police, sous les chandelles des bouges ou des taudis, des incendies, des conspirations, des meurtres crapuleux, des scènes ridicules, pénibles et ignobles. Vous direz, c'est pas à lire, je lirai jamais ça. Non, ça, c'est fascinant quand même. C'est un peu comme chez François Mauriac, mais chez d'autres grands auteurs catholiques de ce siècle, qui nous ont décrit des choses souvent bien pénibles, même chez Julien Green. Alors, de cette œuvre affreuse, dans un sens de Dostoïevski, jaillit le plus inattendu et le plus paradoxal des grands chants d'espérance de la littérature. C'est le message même que l'on retrouve chez Peggy, chez Bernanos. Peut-être vous demandez-vous si je vous ai déjà parlé de Peggy, de Bernanos. Eh bien oui, de Peggy, je vous en ai parlé une première fois le 5 septembre 95, mais j'y suis revenu avec une émission d'une heure. En 96, le 5 septembre, l'anniversaire de sa mort, et l'anniversaire de la mort de Bernanos, le 2 mai 1997, il n'y a pas si longtemps, c'était la 459e émission. Alors, les communistes pullulent dans les possédés que j'ai justement ici sous la main, dans une belle édition. Vous savez, c'est 750 pages, les possédés, c'est quelque chose à lire. C'est extraordinaire. Et les communistes paraissent épisodiques. Dictement aussi dans Les Frères Karamazov, qu'il faut avoir lu, il me semble, une fois dans sa vie. Et de ci, de là, bien, dans l'œuvre de Dostoïevski, on retrouve les communistes un peu. Pourtant, ils ne font qu'apparaître à ce moment-là. Il les a fréquentés. On les appelait aussi les socialistes. Évidemment, ça servirait à rien d'essayer de les retrouver, les personnages communistes dans les possédés, puis de retrouver, disons, des personnages aussi, les mencheviks ou les bolcheviks, là, de 1917, les Rasputin, les Kerensky, les Lénine, les Trotsky, les Voroshilov. Il est mort longtemps avant et s'est inspiré, lui, d'un complot nihiliste de Nechayev qui date de 1871 et qui a fait énormément de... un grand événement dans l'évolution de la Russie vers le communisme. Il s'est servi aussi de ses propres souvenirs, particulièrement du temps où il fréquentait Petrachevski, et c'est là qu'il va être arrêté. Il va être traduit, condamné à mort. En somme, Ce que Dostoïevski a mis en lumière, c'est l'état d'âme de la masse communiste. Au fond de l'âme communiste, Dostoïevski a deviné, sous les apparences de la révolte, la présence d'une soif de soumission absolue chez les partisans, puis le despotisme absolu chez les dirigeants. Dostoïevski est né à Moscou un 30 octobre 1821, selon le calendrier julien. Je ne suis pas le calendrier grégorien, je prends bien le calendrier des Russes, qui, il y a une douzaine de jours de décalage avec nous. Il est baptisé dans la chapelle de l'hôpital où son père est médecin, puis en 1837, à 15 ans, il est très affecté par la mort de Pouchkine, qui meurt dans un duel. Ça l'a fait qu'il est jeune et il avait beaucoup d'admiration pour Pouchkine. Puis un mois après, sa mère meurt. Ouais, le 27 février 1837. Au printemps, il est conduit par son père à Saint-Pétersbourg pour préparer le concours de l'école de génie. Il n'a pas encore 16 ans. Et là, de 15 ans à 21 ans, il étudie à l'école de génie. En 1839, alors qu'il a 17 ans, Dostoïevski, comme je vous ai dit, perd son père. Il est assassiné par ses paysans. Bien qu'il soit médecin, il avait une grande résidence à la campagne. En 1841, il est promu aspirant et Dostoïevski prend une chambre en ville. Et en 1843, toujours jeune, il quitte l'école. En 1844, il se fait libérer du service de l'État. Bon. Il goûte enfin à la liberté, puis là, il peut suivre sa vocation. Qu'est-ce que c'est? Il l'a trop tôt défini, d'ailleurs. Sa vocation, pour lui, c'est connaître la vie des prolétaires, puis la décrire. Il est fasciné par les pauvres. Et tout de suite, l'existence qu'il mène est tout autre que bourgeoise, là. Il est perpétuellement à court d'argent. C'est pas parce qu'il en reçoit peu. C'est parce qu'il la donne. Il donne son argent, il le donne. Il se nourrit à crédit de pain et de lait, puis il habite en commun avec un ami médecin, qui lui-même se dévoue aux malheureux. Là, il aime causer avec les malades, leur faire raconter leur vie, leurs soucis. Et naturellement, bien, il partage avec eux son argent, puis parfois il se laisse voler. Bah, pour lui, pourvu qu'il puisse aider les pauvres. Et aussi, c'est sa première œuvre originale, il a 23 ans, qui va paraître « Les pauvres gens ». Ça a fait sensation, ça a été acclamé. Il faut que les pauvres, dit-il, ne soient plus humiliés, que la société tout entière, de la famille à l'État, se réforme dans ce sens. Alors, il tend au socialisme, évidemment, qui rejette les églises, qui sont trop liées aux riches et aux puissants à cette époque. Mais il n'a aucune raison de refuser le Christ, parce que pour lui, le Christ, c'était le premier socialiste. Alors, l'auteur, donc, des pauvres gens, Dostoïevski, concilie sans peine sa sympathie croissante pour ce socialisme humaniste, que plus tard on va appeler utopique, avec son christianisme, où domine quoi une adhésion admirative à la personne du Christ. Est-ce qu'on a nous-mêmes une adhésion admirative au Christ comme Dostoïevski? On peut se le poser des fois la question. À cette époque où ce... tout jeune, il a 23-24 ans. À cette époque, se produit chez Dostoïevski un changement qu'il raconte ainsi. « J'adoptais passionnément la doctrine de Bilinski. » Qu'est-ce que c'est ça? Il dit « Je me métamorphosais en un libéral d'Occident et je perdis le Christ. » Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? En mai 1845, Dostoïevski, donc à 23 ans, fait la connaissance de Bilinski. Bilinski, c'est le critique à la mode qui a vanté son ouvrage « Pauvres gens ». C'est le maître à penser de la société cultivée. Il avait passé culture quand même pour approfondir une doctrine puis s'y tenir, mais il professait. Il prêchait avec une assurance sa foi du moment. En 1845, donc, il venait de passer de l'égélianisme de droite à la religion de l'humanité de Feuerbach, c'est-à-dire du conservatisme au radicalisme. Il devient un radical, ce Bilinski, puis il entraîne Dostoïevski. Cette espèce de religion de l'humanité, en somme, c'est de l'athéisme, la négation de l'existence de Dieu, pour se lancer dans une transformation de la société qui va faire ce que l'on sait, cette dictature inhumaine qui a régné sur le XXe siècle. Et qui vient au fond d'un esprit évangélique de répartition des richesses, oublions-le pas. Les pauvres gens, le roman, l'avait enthousiasmé, comme je vous ai dit, comme le premier roman social russe, c'est ce qu'il considérait. Et puis son approbation par de grands critiques et la foule entière avait sacré Dostoïevski, génie littéraire, déjà à son âge. Un débutant ne pouvait pas être plus flatté d'entrer dans l'intimité de cet homme célèbre. Et puis, il a voulu suivre ses idées. Dostoïevski est déjà acquis au socialisme. Bilinski entreprend aussitôt de gagner à l'athéisme. Et dès le 10 juin 1845, voici un billet railleur. C'est écrit « Dostoïevski, mon âme immortelle a soif de vous voir. Venez, je vous prie, vous verrez tous les nôtres. Et n'ayez pas peur du maître de la maison. Alors, s'il y aura là des discussions sur l'immortalité de l'âme. À l'égard du Christ, la position de Bilinski semble avoir été changeante. Tantôt, il dit que le Christ est le premier socialiste. Tantôt, un homme de son temps sans vertu extraordinaire. Comme il y en a qui disent, on entend ça de nos jours de plus en plus. On dit, ah, c'est un homme extraordinaire, ou bien on dit, c'est un homme si extraordinaire que ça. Tout ce qu'on dit sur Jésus-Christ est invraisemblable. On dirait que les gens ne lisent pas l'Évangile. Alors, que soutenait exactement Dostoïevski? Peut-être, puisque la question a été posée, a-t-il d'abord affirmé devant l'athée, la divinité du Christ, puis ensuite il a cédé. Comme il en a eu l'impression une fois revenu à l'Église. Et ainsi, dit-il, j'avais perdu le Christ. En fait, il ne sent pas alors une différence absolue entre le Fils de l'homme et l'homme modèle unique et suprême de la perfection humaine. À celui-ci, il reste fidèle, puisque quand Bilinski traite le Christ d'homme ordinaire, il se détourne, il a envie de pleurer. Mais cependant, en cette même année 1845, il s'abstient de communier. Alors si Dostoïevski se laisse envoûter par ce personnage, Bilinski, ça ne dure pas tellement longtemps, il y a des désaccords qui surviennent. La rupture est consommée en 1847 au début. Là, il rencontre un converti, Yanovski, qui vient de se convertir. Il note qu'à Pâques de cette année, Dostoïevski communie et fait son admiration par sa piété. Il faut pourtant constater que dans les écrits de ces années, le souci religieux n'apparaît pas vraiment encore chez Dostoïevski. À ce moment, Dostoïevski fait la connaissance donc de Petrachevski, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un licencié en droit, employé au ministère de l'Intérieur. Et puis, il a composé un dictionnaire de poche où il est dit que l'idée de Dieu provient de la déification par l'homme de sa propre personnalité. En somme, c'est une imagination que l'on se fait, on imagine Dieu, qui n'existe pas. Il dit que le monde est régi par des lois nécessaires et que le secret du bonheur est dans Charles Fourier, vous savez, le fondateur du fourierisme, une espèce de précurseur, disons, du socialisme communiste. Ce Fourier, et puis ce Bilinski, réunissait chez lui quelques dizaines d'intellectuels curieux des idées françaises. Il leur ouvre largement sa bibliothèque et Dostoïevski vient donc chez lui. Et puis, il y a des discussions autour de Proudhon, de Strauss aussi, dont la vie de Jésus, écrite avec charme, a dû lui plaire. Or, Strauss ne voit en Jésus que l'homme, comme il y en a encore aujourd'hui des livres qui traînent dans nos librairies et qui font la même chose. Mais il trouve bientôt à Petrachevski plus d'intelligence que de bon sens. Il est choqué surtout par son dogmatisme, son matérialisme. Il se met à fréquenter en même temps un autre cercle, celui du poète et romancier Dourov. Là, c'est plutôt le socialisme chrétien. Là, il balance Dostoïevski, il ne sait plus où aller. Et Dourov lui-même lui paraît religieux jusqu'au ridicule parfois. Il voit dans la foi un remède à tous les maux, dit-il. Un jour, un lieutenant de la garde donne lecture de la traduction des paroles d'un croyant de Lamennais. Vous savez, je vous en ai parlé. l'amenait le 27 février de l'an dernier. Et puis, ça le touche. Et dans l'un et l'autre cercle, l'atmosphère est échauffée. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, Dostoïevski, à un moment donné, a des paroles hardies. Il dit qu'il faut soulever les paysans, qu'il faut monter une typographie clandestine. Il devient un peu révolutionnaire. Alors, dans les deux cercles, trois fois, semble-t-il, il donne lecture d'une lettre ouverte de Bilinski à Gogol, dans laquelle il exhorte ses amis à se conduire non pas seulement dans leur vie privée, mais aussi dans leurs fonctions puis dans leur domaine, en véritable chrétien. Et Gogol ne fait que rappeler le rôle social du christianisme. Alors, on part du christianisme pour rentrer dans la révolution. Mais Bilinski, comme toujours, est un forcené, et puis qui physique un peu, puis reproche violemment au grand écrivain Dostoïevski de trahir la mission sacrée de la littérature russe en acceptant l'ordre établi, l'autocratie, le servage, l'Église. Alors, petit à petit, Dostoïevski penche de ce côté-là. Puis là, la police a son homme, finalement, chez Petrachevski. Et là, le 25 avril, c'est le grand jour, 1849, les membres du cercle sont arrêtés, Dostoïevski dans le nombre, et c'est principalement pour avoir répandu la lettre de Bilinski qu'il va être condamné. Il est détenu à la forteresse Pierre et Paul, oui, Saint-Pierre et Saint-Paul, Pierre et Paul. Quand il a à adresser finalement à la commission spéciale d'enquête, là, il adresse une déposition écrite. Il l'a fait prudente mais sincère, puis il explique sa participation aux réunions incriminées, en disant qu'il voit dans le socialisme une espèce de complément puis de perfectionnement du christianisme, en conformité avec les besoins du siècle et de la civilisation. Alors à la forteresse, dès qu'il peut demander des livres, Dostoïevski lit deux voyages en Terre Sainte. C'est ce qu'il lit, deux fois, des récits de voyages en Terre Sainte. Il lit les œuvres d'un fameux prédicateur du 18e siècle, dont je vous parlerai sans doute un jour, Dimitri de Rostov, qui est considéré comme un saint. Il réclame à son frère une Bible, et il écrit dans la lettre, « Je veux les deux testaments, j'en ai besoin, si possible en traduction française. Si tu peux joindre le texte slavon, ce sera le summum de la perfection. » Alors il va emporter cette Bible au bagne, où elle lui sera volée. Il est condamné à mort. Sur le lieu d'exécution, lorsque le prêtre lui présente la croix, il la baise, comme les autres condamnés. Puis, il voit dans l'attente de la mort, ces 10 minutes terribles, au-delà de toute mesure, n'est-ce pas, effroyable, qui lui... On essaie d'ailleurs un tel souvenir, qu'il va les décrire à plusieurs reprises. On trouve ça dans l'Idiot, un chef-d'œuvre, et dans son journal. Il n'a pas demandé à se confesser. Mais quant à lui-même, il pense à tout ça dans son journal, quand il écrit « Dans ces dernières minutes, quelques-uns d'entre nous, je le sais positivement, rentrant instinctivement en eux-mêmes et jugeant en un instant toute leur vie si jeune encore, se sont repentis, peut-être, de certaines fautes graves, ces fautes qui, toute la vie, vous pèsent en secret sur la conscience. » Mais les actes pour lesquels nous avions été condamnés, les idées, les conceptions qui possédaient notre esprit, nous apparaissaient non seulement comme n'exigeant aucun repentir, c'est des idées socialistes chrétiennes presque, mais même, il dit, comme quelque chose de purificateur, ces idées-là, pour lesquelles nous souffrions une sorte de martyr, et pourquoi il nous serait beaucoup pardonné. Aujourd'hui, les questions de Dostoïevski, Dostoïevski était condamné à mort... Il a frôlé la mort pour avoir participé à des petites réunions où l'on voulait changer un peu la société pour aider les pauvres. Et là, c'est sous le tsar, au 19e siècle, et la grâce, finalement, il lui est accordée par l'empereur. Il a pourtant porté la cagoule blanche au moment où il allait se faire pendre, et puis il est sauvé in extremis, comme on dit. Et cette grâce de l'empereur rend les condamnés à la vie. Dostoïevski donc est prévenu qu'il va passer 4 ans au bagne en Sibérie. Il écrit à son frère une lettre admirable de sang-froid. On voit tout le courage de Dostoïevski et son espoir. Et c'est là qu'on trouve dans cette lettre une humanité, puis un amour fraternel. Il y a des résolutions, il y a des conseils empreints du plus pur christianisme. Et c'est dans ces dispositions, sans doute, que Dostoïevski part pour le bagne. En 1850, donc, il est écroué à la forteresse de Domsk. Il a sa première crise d'épilepsie médicalement constatée. Il fait des séjours à l'hôpital, où il peut lire et écrire. Donc, il est libéré finalement, après 4 ans. En 1854, il tombe amoureux de Marie Istiaev. C'est le 6 février 1857 qu'il l'épouse, puisqu'elle est devenue veuve. Quelques années plus tard, en 1862, il fait un premier voyage à l'étranger, Paris, Londres. Dostoïevski lit alors Les Misérables de Victor Hugo. Ça l'impressionne beaucoup. Il s'intéresse à ses œuvres où il est question de la justice et des malheureux. En 1863, au mois d'août et octobre, de août à octobre, il fait un deuxième voyage à l'étranger. En partie avec Madame Suslova, dont Dostoïevski est amoureux. Et il faut dire qu'il est séparé de sa première femme, qui est hystérique. Il joue avec passion à la roulette. L'année suivante, avec son frère, il lance la revue L'Époque. Puis il y publie Le Sous-sol. Comme vous voyez, c'est tout, ça traîne toujours autour de la pauvreté. Il perd sa femme, Marie, donc. Il écrit Méditation devant le cercueil, parce que ça lui fait quand même du chagrin. Il l'avait aimé, mais il ne pouvait plus l'endurer. Il était hystérique. Et puis, il perd aussi son frère Michel. Puis, il perd son ami et collaborateur Apollon Grigoriev. C'est dur. Il se charge bénévolement des dettes de son frère, puis de l'entretien de sa famille. C'est un homme généreux. L'année suivante, en 1865, la revue L'Époque est en faillite. Il fait un court voyage à l'étranger. Encore un an plus tard, il publie Crime et Châtiment. Et puis, en un mois, il dicte Le Joueur. L'année suivante, encore en 1867, Dostoïevski épouse sa sténographe, Anne Grigorievna. Et là, il fait un long séjour à l'étranger, de 1867 à 71. Il va à Dresde, la Madone Sixtine, il voit ça. À Bade, il joue à la roulette encore, il perd beaucoup d'argent. Il va à Genève, il y a le congrès de la paix. Dostoïevski est indigné par le discours de Bakounine contre l'Empire de Russie. Il est irrité aussi par le socialisme athée. Lui, c'est un socialisme chrétien qu'il veut. En 1867, toujours pendant son séjour à l'étranger, puis l'idiot. En 70, c'est l'éternel mari. Puis Dostoïevski annonce à son ami Maïkov qu'il travaille à une grande chose tendancieuse contre les nihilistes, contre les athées, les matérialistes. Alors, il expédie Les Démons à une revue, Le Messager russe, une revue conservatrice. En 71, à Wiesbaden, Dostoïevski joue pour la dernière fois. Il est guéri finalement du jeu. Il part pour la Russie. Et là, c'est le couronnement de sa carrière de 1871 à 1881. Il reste malade sous bien des points de vue. Il souffre d'asthme, d'ailleurs. Il fait une cure. Il relit le livre de Job pour mieux comprendre ce qui lui arrive. Et 2 ans plus tard, en 77, il publie le journal d'un écrivain, Le songe d'un homme ridicule. Il y a aussi Memento, pour toute ma vie. Il aimerait écrire une vie de Jésus-Christ. En 78, Dostoïevski assiste à des leçons de Vladimir Soloviev sur l'incarnation. Et justement, quelques mois plus tard, avec Vladimir Soloviev, sur lequel je vous prépare une émission, Dostoïevski va à l'ermitage d'Optino visiter le Starets. Vous savez, un moine, un Starets ambroise. Puis il expose à Soloviev sa conception d'un socialisme russe en union spirituelle avec l'Église. Ça le hante toujours, ce problème-là. Et l'année suivante, en 79, c'est la publication fantastique des frères Karamazov. La dernière partie paraît en 1880. C'est considérable, les frères Karamazov. Jusqu'à ces derniers jours, Dostoïevski a travaillé. En 1880, il a son heure de triomphe à Moscou avec son discours sur Pouchkine, qui s'était suicidé, je vous rappelle, quand il était tout jeune. Quand il parle du génie russe, il a un feu sacré. Il dit être vraiment complètement russe, peut-être n'est-ce qu'être le frère de tous les hommes. Alors la Russie est appelée, dit-il, à dire le dernier mot de la grande harmonie générale, de l'accord fraternel définitif de toutes les nations dans la loi du Christ. Espérons qu'il a raison et que le christianisme va revenir en Russie pour recouvrir le monde. Alors c'est un délire, hein? Les gens sont passionnés par tout ce qu'il dit, je pourrais vous lire de plus larges extrêmes, je n'ai pas le temps. Il raconte dans une lettre que on pleurait, on sanglotait, des inconnus s'étreignaient, se juraient d'être meilleurs, de ne plus se haïr, de s'aimer les uns les autres. Alors Dostoïevski développe ensuite, dans un numéro spécial du journal, une vue sur la philosophie de l'histoire à laquelle il tient beaucoup, puisqu'il l'appelle sa profession de foi. « Toute société a à sa source une idée morale et religieuse, » dit-il. Je ne sais pas si on a compris ça ici au devoir. « Toute société a à sa source une idée morale et religieuse. » Les premiers chrétiens aussi se sont constitués en une communauté, et celle-ci en une nationalité d'un type nouveau, l'Église universelle. L'article se poursuit vers la fin avec de terribles prophéties sur l'Occident. Dostoïevski parle de la fourmilière sans Église et sans Christ, qui est sapée par le prolétariat, comme si nous étions des fourmis, sapée par le prolétariat. Et bientôt, dit-il, tout croulera. Parlement, science, banque, à l'exception peut-être des Juifs. Il écrit « Une faible partie de l'humanité ne peut pas traiter en esclave tout le reste, et c'est cependant à quoi ont tendu, quand on y pense, jusqu'à il y a quelques années à peine, les institutions politiques d'une Europe aujourd'hui complètement païenne, dit-il. » Ce texte est presque un testament, puisque Dostoïevski ne lui survit qu'environ 6 mois. Le premier biographe de Dostoïevski, Strakhov, assure que ses amis, lorsqu'il est revenu de l'étranger après ce long séjour dont je vous ai parlé, ont été frappés de la chaleur nouvelle de son christianisme. Je cite ce que Strakhov dit. Dostoïevski inclinait toujours la conversation vers les sujets religieux. Son abord était plus affable. Un sourire apparaissait sur ses lèvres et un jour il me demanda « Qui est cette personne ?» Je lui dis, et j'ai ajouté, « Un homme merveilleux. » Alors, ses yeux à Dostoïevski brillèrent. Il regarda avec amour les autres personnes présentes et il me dit tout bas, « Mais tous les hommes sont des créatures merveilleuses. » En somme, c'est dire qu'il voyait tout le monde du regard même du Christ, qui aimait tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dostoïevski, dans ses dernières années de sa vie, est un écrivain arrivé, recherché par les puissants. Il est familier de certains nobles, mais est apprécié à la cour. Mais il garde son indépendance parce qu'il est de cœur toujours avec les faibles, les petits. Il fait campagne dans son journal pour que soit cassé un jugement trop sévère, mettons. Il s'occupe aussi de caser des vieillards. Il s'occupe des petits faits, des petites choses. Il est pratique. Il donne son temps ou son travail, comme son argent d'ailleurs. Il ne fait pas que parler ou écrire. Malade, il ne refuse jamais de participer à des soirées de bienfaisance. Dostoïevski, il lit des passages de ses ouvrages. Il y joue même des rôles. Ce n'est donc pas de la bienfaisance extérieure. C'est quoi? C'est de la charité véritable. Il se met à la place des souffrants. Il est de tout son être avec l'enfant abandonné qui éprouve confusément qu'il n'est pas comme les autres enfants. Il ressent le désespoir que conduit la femme jalouse, disons, à tuer son mari, ou sa rivale. Il comprend même l'effroi de l'homme que réveille tout à coup le froid du poignard, cette sensibilité profonde et si évidente chez lui que des lecteurs lui demandent conseil. On lui dit « vous qui comprenez les peines des autres ». On lui dit aussi « vous qui êtes un abîme d'indulgence et de pardon, qui démêlez si bien le labyrinthe des pensées ». Il y en a d'autres qui viennent vers lui en lui disant « vous qui seul pouvez comprendre tous les états d'âme ». Alors on lui fait des confessions, on lui confie des désespoirs, on lui demande conseil, on compte sur lui pour placer un article. Il répond toujours avec soin, avec bon sens, parfois avec chaleur. Ses lettres sont merveilleuses de tact et de bonté. Sa charité va quelquefois plus loin. Un ivrogne, c'est absolument fantastique, un ivrogne le frappe dans la rue assez violemment, puis des témoins font arrêter cette espèce d'ivrogne. Au poste de police, Dostoïevski se refuse à porter plainte. Quand malgré cela, l'ivrogne est condamné à une grosse amende, c'est lui qui la paie, c'est Dostoïevski qui paie l'amende. C'est incroyable. Quel chrétien. Un remords que, de Berlin, il avoue un jour à sa femme, n'a pu venir qu'à une âme généreuse. Un tel m'a annoncé sa visite et cela m'ennuie, car il va m'emprunter de l'argent et moi je me suis sans doute enjuivé, dit-il. Je n'ai aucune envie de lui en donner. Il y avait du frais d'antisémitisme un peu. Quand un inconnu lui demande la permission de tirer une pièce de théâtre de sa nouvelle, Le songe de l'oncle, il la lui accorde. Mais tout ce qu'il lui demande, c'est de lui montrer son texte avant que ce soit joué sur la scène. Il prend des précautions. Et le sens de l'action qu'il voudrait exercer est défini par son respect. Son respect, dit-il, pour les hommes, qui, au-delà de la médiocrité et de la routine, cherchent un peu de vie spirituelle. Et il a toujours cette vie spirituelle vivante, qui lui fait voir que la vie spirituelle de bien des gens, et ça le fait souffrir, n'est qu'un conte. Elle n'existe pas, ils font semblant. Et que seule existe pour eux la lutte pour la vie. Et ses conseils prennent parfois un tour proprement religieux, ils ne gênent pas. Il dit, ne faites lire à votre fils que ce qui reflète le beau. Écoutez bien ça les parents là. Ne faites lire à votre fils que ce qui reflète le beau et engendre des pensées élevées. Ben, il donne une liste d'auteurs classiques qu'il faut lire, puis il dit, par-dessus tout, faites-leur lire naturellement l'Évangile et les Actes des Apôtres. Quels sont les parents qui font lire ça aujourd'hui, l'Évangile, les Actes des Apôtres? Mon Dieu, ils savent rien. Et cela se trouve dans une de ses dernières lettres. Dans la nuit du 25 au 26 janvier 1881, Dostoïevski saigne du nez. Dans l'après-midi du 26, un flot de sang lui jaillit de la gorge. Il s'amuse quand même avec les enfants, puis il écrit au messager russe, cette revue, pour demander une avance, parce qu'il leur avait envoyé des écrits. « Cette prière sera la dernière, peut-être, dit-il. » Non, ça l'est. Quand arrive le médecin, l'auscultation suscite une nouvelle hémorragie. Alors Dostoïevski manifeste le désir de voir un prêtre. Après le départ du prêtre, il fait ses adieux à sa femme et aux enfants, il les bénit. Après une nuit calme, le 27, il peut s'occuper des épreuves du premier numéro du Journal d'un écrivain pour 1881. Et le 28 au matin, il dit à sa femme qu'il mourra dans la journée. Puis il lui dit, c'est beau, hein, allume un cierge et donne-moi l'Évangile. C'est l'Évangile qu'il avait en prison au bagne. Il aime l'ouvrir au hasard pour trouver dans le verset placé en haut et à gauche, une réponse à telle certitude ou hésitation. Vous savez, les charismatiques font ça, ils ouvrent la Bible sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, puis ils choisissent un texte. Je dis pas que c'est une bonne chose, je dis qu'ils le font. Et c'est étonnant parfois. L'abbé Marié pratique ça. Il ouvre donc le petit livre, il tend à sa femme Anne Grigorievna, qui lui a donné 4 enfants, et elle lit dans Saint Matthieu, chapitre 3, versets 14 à 15, Jean le retenait, mais Jésus lui répondit, « Ne me retiens pas, car c'est ainsi que nous devons accomplir la grande vérité. » Alors Dostoïevski dit à sa femme, « Tu vois bien, ma chérie, ne me retiens pas. Cela signifie que je mourrai. » Alors il veut plusieurs fois voir ses enfants, et fait remettre l'évangile à son fils Théodore, et le soir, il perd connaissance. Il meurt peu après 8h30. Le détail de l'itinéraire religieux de Dostoïevski, ça donne l'impression de beaucoup de variations quand on lit ça. En réalité, il y a une profondeur. Dans cette profondeur, il y a une grande unité. Dostoïevski n'a jamais été athée. Jamais. Il n'a donc pas connu de conversion dans ce sens-là. Toujours, il a vénéré le Christ. Il a dit l'avoir un temps perdu, mais cette perte de quelques mois, au milieu de toute une vie, ça ne lui est apparu que longtemps après, quand il y a réfléchi. C'était relatif, au fond. Pour exprimer la perfection du Christ, il semble que Dostoïevski n'ait pas assez d'épithètes et de superlatifs. Le Christ, pour lui, est l'être d'un prix infini qui domine toute la nature avec ses lois. L'être démesurément infiniment beau, dont l'apparition est déjà, dans notre histoire, une infinie merveille. C'est le sommet, c'est l'idéal. Le Christ est le modèle éternellement indépassable de la perfection humaine. Le Christ transcende quasiment l'humanité présente ou à venir. Voilà le Christ pour Dostoïevski. Et ce Christ, c'est celui des évangiles, au fond. Ses paroles et sa conduite ont toujours été la règle de vie de Dostoïevski, même s'il a été inégalement fidèle à cette règle. Il a compris avec tant de rigueur le précepte de l'amour du prochain. On l'a vu, qu'il a jugé son accomplissement impossible ici-bas, mais il a toujours tendu vers ça. La religion de Dostoïevski est éminemment christocentrique, et dans le Christ, c'est l'homme qu'il voit. C'est pour cet homme qu'il a un amour jaloux. La raison en est qu'en général, l'homme est au centre de sa pensée, d'ailleurs. Qu'il traite même et passionnément d'idées, d'institutions, de politiques, c'est toujours de l'homme qu'il est préoccupé. Or, seule la religion du Christ, croit-il, assure à l'homme sa dignité et sa liberté. Seule la religion du Christ dirige sa liberté vers le bien et le beau. Si l'homme n'avait pas, grâce à son âme immortelle, une valeur absolue, il n'y aurait ici-bas ni morale ni société, tout serait permis, on pourrait se tuer les uns les autres comme on écrapouille un insecte. Qu'est-ce que serait un homme? S'il n'avait pas une âme immortelle, si Dieu ne l'avait pas créé, il ne serait qu'un ensemble de matière. Sans âme. On l'a vu, hein, dans ce siècle, plus de 100 millions de morts que l'athéisme a engendrés. Une catastrophe mondiale. Et ça continue avec l'avortement. On n'a aucune idée du drame de ce siècle qui s'achève. Quand on compilera ça et qu'on ouvrira les yeux, on voudra les refermer. Qu'existe-t-il en dehors de l'homme? C'est un grand mystère. Dostoïevski a toujours eu le sentiment d'une providence, lui. Une providence. Dieu qui vient vers nous. Alors volontiers, il prie. Il a le sentiment d'une puissance divine. Il croit à l'immortalité de l'âme. Il croit à l'autorité absolue de la morale du Christ. Et ce sont chez lui des sentiments naturels qui sont pas soumis à la discussion, pas du tout. L'existence de Dieu, il l'admet, c'est certain, mais quel Dieu? Un Dieu qui serait immanent à l'univers, de sorte qu'on a pu parler peut-être de panthéisme, non. Un Dieu qui serait la vie même, cette merveille, puis qui serait la beauté de la nature. Un Dieu qui serait nécessaire comme garant de la morale, parce que sans lui, tout serait permis. Un Dieu qui serait en l'homme pour combattre le mal. C'est difficile à cerner. La différence entre Dostoïevski et Tolstoï est que ce dernier, Tolstoï, est un rationaliste qui nie formellement le surnaturel. Alors Dostoïevski lui reconnaît les droits égaux à la raison et au sentiment. Puis il estime que la religion relève essentiellement du sentiment. Il essaie de la justifier par la raison, mais il n'y parvient pas. Comment, par exemple, concilier l'existence du mal, et surtout de la souffrance imméritée, avec l'existence d'un Dieu infiniment bon, juste et tout-puissant. Alors c'est pourquoi il préfère son amour et sa vénération pour le Christ à la vérité. Ce qui veut dire à la preuve qui pourrait éventuellement être apportée que le Christ n'était qu'un homme. C'est pourquoi aussi il a été tourmenté toute sa vie par Dieu. Et ce tourment a été d'autant plus sensible que le problème religieux n'était pas chez lui cantonné dans une espèce de spéculation métaphysique, comme on voit des gens des fois, moi j'en ai déjà interviewé à la télévision, c'était toute une spéculation métaphysique, tout le problème religieux était dans leur tête. Ça ne rejoignait pas, on dirait, leur cœur. Pourtant, c'était des grands spécialistes. Or, lui, il commandait sa compréhension des hommes, sa politique, sa conduite morale, sa création littéraire. Ce tourment commandait son attitude. Et les nombreux personnages de son œuvre, qui hésitent entre la croyance et l'incroyance, sont les reflets de ce tourment qui l'a habité toute sa vie. Cependant, dans les derniers temps, on le voit devenir un fidèle chrétien orthodoxe. Il prie. La seule idée de mentionner dans sa prière du soir ceux pour qui personne ne prie. Et la foule immense des hommes trépassés, même s'il a trouvé cette idée dans quelque texte pieux, est-ce que ça ne revient pas pour Dostoïevski à accepter tout l'ensemble mystique et doctrinal de l'Église au fond, hein? Il accepte, puis il habite ce grand ensemble doctrinal de l'Église comme une immense demeure. Il y est chez lui. Comment expliquer cette dualité sinon par un pari? Il ne s'agit pas du pari de Pascal, mais tout se passe chez lui là, comme si, incapable de sortir de son doute intellectuel, il avait décidé, non pas d'un coup, mais par un effort continu de sa volonté d'être pratiquement un chrétien orthodoxe, comme l'était et sa femme et tout son peuple. Il écrit à une correspondante, d'ailleurs, en 1880, c'est très beau, « Croyez-vous au Christ et à ses promesses, si vous croyez, ou si vous voulez beaucoup croire, livrez-vous donc à lui totalement. Les tourments de votre dualité seront fortement atténués et vous obtiendrez pour votre âme l'issue, la sortie. Or, c'est là l'essentiel. Vouloir croire, équivalent à croire, c'est le pari de Dostoïevski. Ce n'est pas comme un gamin, dit-il, que je crois au Christ et que je le confesse. C'est par un immense creuset de doute que mon hosanna a passé. Hosanna, ça veut dire qu'on soulève son cœur jusque dans le cœur de Dieu. Hosanna, cette date, ce ne peut être que l'adhésion confiante, enfin. Enfin, donnez à la foi de l'Église. Pensez-y quand vous allez à la messe et criez, j'espère que vous le criez un peu. Hosanna au plus haut des cieux. Pensez à ce cri de Dostoïevski, qui retentit dans l'histoire comme l'un des plus beaux cris d'un grand auteur, d'un grand écrivain.